Merci Charlie pour ton invitation. On va changer de thématique puisqu'on va aborder l'esthétique de la face. Et je vais vous parler donc des expressions faciales qui sont au centre actuellement des développements et des ajustements en médecine et en chirurgie esthétique. On a quelques soucis techniques, je pense que ça va passer. Ces courtes vidéos pour vous montrer l'impact, le travail des derniers psychologues sur les expressions faciales. Bon, on n'a plus de son, mais c'est pas très grave. Et on reviendra dessus. Ça passe pas, par contre, j'arrive pas à passer les slides. Hein. Ce sera très très court, on va essayer de vous compacter les trois communications en moins de 20 minutes. Voilà. Donc en esthétique, tout a évolué ces dernières années dans les concepts de la beauté, dans les concepts de stratégie de traitement vers des interventions moins agressives, moins invalidantes, avec des reprises sociales et professionnelles très rapides, et puis dans des objectifs de traitement qui sont devenus de plus en plus naturels, et pour chasser ces résultats esthétiques disgracieux que l'on voyait et qui ne faisait pas les beaux jours de l'esthétique, en tout cas la bonne réputation de cette esthétique, et avec un retour de l'esthétique au naturel. Alors la beauté, bien entendu, c'est la définition clé de l'objectif que l'on doit avoir, et la définition de cette beauté, si on cherche un peu, elle se renvoie plutôt dans l'émotionnel que dans une définition uniquement mathématique et objective. Si on prend cet exemple de sculpture de Alison Leper par Mark Quinn sur les quais de Venise, que j'ai prise il y a quelques années, on peut s'interroger sur ce que l'on peut qualifier de beau. Est-ce que c'est la violence de l'image perçue dans notre émotionnel? Est-ce que c'est le côté monumental de l'œuvre? Est-ce que c'est l'originalité de la disproportion? Toujours est-il que ça a été jugé comme quelque chose de beau par de nombreuses personnes, en tout cas la ville de Venise et le sculpteur, puisqu'ils l'ont acheté. Et si on s'en réfère aux philosophes, déjà ceci renvoyait vers la beauté, vers ce que l'on perçoit et ce que l'on ressent. Cependant, en mathématiques, en esthétique, le nombre d'or a été à l'origine des descriptions pour essayer d'objectiver, systématiser ce qui est beau, ce qui ne l'est pas. Et ce nombre d'or avait été donc décrit par un moine italien franciscain, Luca Parioli, dans un ouvrage auquel avait participé Léonard de Vinci sur sa couverture. Ce nombre d'or qui est égal à 1,618, ce nombre d'or est le résultat de l'équation x2 moins x égale 1. Ce nombre d'or expliquerait toutes les choses que l'on pourrait objectivement qualifier de belles, qu'il s'agisse des pyramides, qu'il s'agisse des grands ouvrages de ce monde architecturaux, ou peut-être même la beauté physique serait reliée à cette valeur idéale de beauté. Sur le plan de l'esthétique médicale, ce nombre d'or a été étudié, notamment par un chirurgien californien, qui a, avec cette longueur de 1,618, établit des triangles, des pentagones, et essayer de construire un masque d'or correspondant à un visage idéal, visage parfait, visage beau par essence et par définition. Il a donc construit ce masque d'or, et il a appliqué ce masque d'or sur des visages de mannequins venant de pays et de religions différentes, et il a établi qu'on pouvait l'appliquer et que les repères, les volumes, les dimensions qu'il obtenait étaient ceux-ci, qui conditionnait, qui définissait la beauté. Mais pour nous, pour notre part, aussi belles soient ces mesures, ce qui nous semble le plus important, c'est dans la beauté, ce sont les expressions et la dynamique faciale qui reprennent le pas sur des approches uniquement volumétriques, millimétrées de la face. Et donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, les expressions faciales sont autant de développement. Ces expressions faciales ont été initialement décrites par Darwin dans sa théorie de l'universalité des expressions entre les animaux et les êtres humains. Dans son premier rapport, il avait donc établi ses définitions d'université des expressions. C'est resté très longtemps en désuétude, et puis les travaux plus récents des psychologues, et notamment de Paul Ekman, qui a fait au moins deux voyages en Papouasie-Nouvelle-Guinée, est allé voir les populations. On n'a plus rien à l'écran. Est allé donc voir en Papouasie-Nouvelle-Guinée ces populations, et il leur a demandé d'exprimer des émotions dans des situations données de peur, de joie, d'inquiétude, et il s'est aperçu que là aussi on retrouvait cette universalité des expressions faciales. Il en a déduit un code des actions faciales aujourd'hui qui est la Bible dans les actions, dans les mouvements de la dynamique faciale, il a décrit 46 unités de code de mouvement et il est capable de déterminer chez chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, si quand vous exprimez un mensonge, vous exprimez quelque chose de sincère, parce qu'il y a des combinaisons de muscles qui sont liées à une émotion. Et donc, ils ont développé avec la CIA, à la suite des attentats du 11 septembre, des brigades spéciales aux États-Unis pour que ces brigadiers soient capables d'identifier des terroristes potentiels dans les aéroports. Donc aujourd'hui, le développement de ces expressions de faciales est quelque chose d'important. Ça a encore sauté, monsieur. Voilà. Avec des mesures mathématiques qui objectivent tous ces modèles. Ces expressions faciales sont au nombre de 6. Initialement décrite, plus une. Donc le dégoût, la joie, la surprise, la peur, la tristesse, l'anxiété et le dépit. À ces expressions de base que nous avons, qu'on peut décrire, se sont rajoutées des combinaisons d'expressions et plusieurs études fondamentales, notamment par les psychologues, permettent de combiner être anxieux et inquiet à la fois. Enfin, donc on peut avoir des quantités de combinaisons assez importantes. Alors là, il y avait du son, c'est un petit peu dommage. Mais Donc vous l'avez compris, on est en train de développer, d'appréhender ces émotions, ces expressions faciales qui renvoient vers du vécu. Mais avec le vieillissement, en plus de ces expressions de base, vont s'imprégner des modifications de volume, des modifications de structure de la face. Et ce qui se passe avec le vieillissement, c'est que l'être humain ne veut pas être beau, et tous les patients qui consultent ne veulent pas être plus beaux. Ils veulent en fait revenir à quelque chose de plus naturel, de plus agréable. Et en fait, si on cherche, ces patients veulent revenir au visage de référence que l'on a tous eu à un moment de notre vie, où on pense avoir été beau par rapport à notre équilibre. Souvent, c'est autour de la trentaine, avant que les stigmates du vieillissement se mettent en place. Donc, cette perte de vieillissement de référence est la clé centrale de l'analyse psychologique du retour à une quête de beauté. Dans ces deux analyses, il y a deux phénomènes qui sont importants. L'effet miroir par rapport aux expressions, c'est quand vous voyez quelque chose de laid ou de beau en face de vous, vous allez exprimer de l'émotion, une contrariété, une joie, un sourire, et générer du plaisir éventuellement sur vous-même. De la même manière, si on bloque une expression de contrariété avec la toxine botulique au niveau du corrugateur, par exemple, donc on va empêcher les effecteurs moteurs de ces expressions négatives et on va générer des sensations de bien-être. Donc là aussi, l'esthétique participe à quelque chose de meilleur. Sur toutes ces expressions faciales, on va distinguer les expressions dynamiques que vous connaissez maintenant, qui sont liées aux contractions musculaires, bien décrites par Guillaume Duchesne de Boulogne, et qui permettent de savoir par telle contraction musculaire quel impact on va avoir au niveau de la face. Tous ces groupes musculaires, toutes ces actions musculaires peuvent être bloquées, équilibrées, on peut jouer dessus grâce à la toxine botulique, vous la maîtrisez parfaitement bien, notamment au niveau du regard et des balances entre le muscle orbiculaire et le muscle frontal. Mais je crois que les prochaines communications seront axées là-dessus. Ces expressions négatives, donc aux expressions dynamiques, on va opposer des expressions statiques, qui sont les ombres et les sillons qui vont s'imprégner en dehors de tout mouvement facial. Et on le voit bien sur ces photos prises par le studio d'Harcourt à Paris. Vous avez deux modèles magnifiques, mais avec un âge, des différences d'âge, et où le photographe a bien pris la peine de mettre ou pas en avant certaines zones, comme la région des tempes. Chez le plus jeune modèle, elle est mise en valeur puisqu'elle est bien galbée. Chez le modèle un peu plus ancien, par exemple, elle est cachée parce que plus creusée. Cette quatrième dimension de l'expression statique de la face peut être traité positivement en utilisant des fillers pour rétablir une plénitude de la face, remplir les zones de jonction, éliminer les ombres et les dépressions, et également rétablir les continuités, les limites entre différentes parties, notamment entre la face et entre le cou. Je passe très vite. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'établir des plans de comblement en esthétique avec les fillers et avec la toxine qui soient à la fois satisfaisants en statique, mais également en dynamique. Si vous chargez une pommette, par exemple, avec des produits de comblement de façon importante, avec un résultat, somme toute, correct en statique, et quand la patiente va commencer à parler ou rigoler, qu'elle a un bloc de pommettes qui montre, on va tout de suite voir que c'est quelque chose qui n'est pas naturel, qui n'est pas esthétique. Donc il faut aujourd'hui combiner deux résultats esthétiques en statique et en dynamique pour maintenir de l'expression naturelle. Deux zones sont particulièrement importantes dans les expressions faciales, le regard et le sourire. On traitera très rapidement le regard puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, en insistant sur la position du sourcil et sur la région des cernes. Concernant la région du sourcil, sa position et sa forme sont fondamentales. Sa position, elle est réglée par les contractions musculaires entre le frontal et l'orbiculaire. Et on ne peut pas monter une queue de sourcil si on n'a pas un muscle frontal qui va latéralement. Et ça, c'est très important. C'est que vous avez des patientes qui viennent et qui vous disent, je voudrais monter le sourcil. Ma copine, elle a eu trois injections de Botox et elle a le sourcil qui est monté. Le problème, c'est que si la copine a un bon frontal étendu latéralement, elle pourra monter son sourcil. Si elle ne les a pas, elle ne pourra pas monter son sourcil. C'est important parce que vous allez dire à votre patiente que la séance de toxine que vous allez lui faire sera plus ou moins efficace sur le positionnement de son sourcil. Et ça, c'était un des résultats du consensus même si ça paraît évident, de la SAMCEP. L'autre évolution de l'œil, enfin de la région du sourcil et de l'orbite, c'est la vidange qui se passe avec le temps. Et on peut voir l'effet sur cette même famille que l'on peut obtenir, donc avec une tendance quand même à l'œil qui va se creuser. Donc les orientations de traitement vont s'orienter vers un remplissage forcément extrêmement prudent au niveau de la région orbitaire. Je sais que Jacques fait beaucoup de comblements par la graisse. On peut également utiliser de l'acide hyaluronique avec une grande prudence. On va utiliser de la cannule chaque fois que l'on va souhaiter remplir la région orbitaire en dedans des pédicules supraorbitaires ou supratrochléaires. Quand on va faire juste un remplissage latéral de la queue de sourcil avec l'aiguille, on pourra rapidement effectuer ce geste sans danger et obtenir une bonne ascension. Quelques exemples, et puis j'en ai fini. Pour vous montrer qu'on peut obtenir ici sans toxine botulique un véritable galbé du cadre orbitaire et rehausser, retrouver une lumière de la région latérale du sourcil. Le cerne, vous savez combien c'est dangereux parce que c'est à risque d'œdème et de persistance de boules qui vont se congestionner dans cette région, liées au caractère hydrophile de l'acide hyaluronique, liées au fait qu'il n'y a pas de hyaluronidase ou très peu. La technique va s'appuyer sur une injection plutôt à la cannule, loin, avec un point d'entrée loin de la zone de dépôt, et puis une quantité de dépôt qui sera forcément profonde, en quantité plutôt infra-résultat qu'en excès. Et toujours avec beaucoup de prudence, sinon on peut se trouver devant ce type de complications avec de l'œdème ici. Ici avec un effet Tyndall ou ici avec une ecchymose, un hématome qui mettra du temps à passer. Et puis comme souvent c'est le cas en esthétique, il faut savoir choisir des procédures associées pour obtenir des résultats optimums combinés chirurgie, médecine et tous les types de soins que l'on puisse avoir en médecine esthétique pour malgré tout réussir à des résultats naturels. Donc ces expressions faciales sont devenues maintenant un des points clés centraux de notre analyse, en complément de la volumétrie qui a été au cœur des développements de l'esthétique ces dernières années. Et puis quand vous avez bien réussi votre soin, eh bien votre patiente elle est heureuse parce qu'elle a rendu ses copines jalouses et c'est probablement ce qui est le meilleur des résultats. Gardez en mémoire que le visage est la fenêtre de l'âme, comme le soulignait Sydney Coleman, et que ce n'est pas uniquement de la plastique inerte, notre métier. Ceux que ça intéresse, bon, on a écrit quelques livres, vous pouvez nous contacter pour les avoir. Jacques a participé dedans aussi. Ça passe plus. Pourquoi ça passe plus? Voilà. Je vous invite au congrès de la SAMCEP la semaine prochaine si vous le souhaitez. C'est un congrès transversal d'esthétique, de toutes les spécialités. Jacques est responsable avec Jérôme de l'oculoplastique. Et donc vous êtes les bienvenus. Et puis au congrès Face to Face en septembre à Cannes également, où l'asso PREF va se joindre au meeting avec l'European Academy et le congrès Face to Face. Merci pour votre attention.